Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum, et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des 5 premiers mois après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant? Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoisdor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoisdor.fr. Et maintenant, place à votre podcast du jour.
Bonjour, bienvenue sur notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Je suis Céline Chadela et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies. Et pour cela, je serai accompagnée de Marie Maë Poulain.
Bonjour, moi c'est Marie, je suis psychologue clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'Or. Alors le Mois d'Or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en postpartum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi Céline?
Une maman qui est soutenue.
Alors offrons-leur cet espace de parole et d'écoute.
C'est parti.
Alors ce podcast, il est un petit peu particulier parce que c'est mon papa que j'invite aujourd'hui à discuter justement de toute la relation entre les grands-parents, les jeunes parents et le vécu des grands-parents. Et je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, papa alias Michael.
Ok, merci beaucoup ma fille de me proposer ce partage.
Est-ce que pour commencer, tu peux bien nous situer déjà, rappeler, voilà, même si je viens de te nommer, comment tu t'appelles, quelle est ta situation toi en tant que père, tu as combien d'enfants, tu as combien de petits-enfants, depuis combien de temps, pour qu'on sache un petit peu plus qui tu es.
Alors, je m'appelle Michael, ouais, j'ai 3 enfants, Marie, Samuel et Baptiste. Ils sont tous adultes maintenant. Et une petite fille, pour l'instant. Et après, on verra ce que le futur nous réserve.
Ok, donc t'es grand-père depuis 7 ans maintenant.
Exact, oui. Ça fait 7 ans que je suis devenu grand-père.
C'est ouais. Ça. Et alors, c'est quoi d'être grand-père comme ça?
C'est une grande découverte. Hein. C'est un apprentissage. C'est un moment précieux. Car on est toujours dans la filiation, en même temps on est plus parents, donc on n'a pas non plus la même définition que les parents.
Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a touché, dont tu te rappelles justement toi-même en devenant grand-parent ou dans les premiers temps quand ta petite fille était là? Est-ce qu'il y a des moments qui ont été marquants?
Déjà la naissance, vu que j'étais pas loin sur le parking de la maison de la naissance, donc plus proche.
Sacré aventure.
Voilà, donc mentalement très présent, de cœur totalement, mais depuis longtemps, bien avant la naissance. Et pour moi, c'est un moment très précieux et aussi dans tous les différentes étapes qui ont suivi.
En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir là aujourd'hui pour échanger ensemble, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, hein. On se lance dans des grandes conversations et on partage aussi nos visions, nos expériences. Donc, je te remercie beaucoup d'être là aussi pour tout simplement qu'on partage. On est autour d'une petite boisson chaude après le repas entre père-fille et pris d'un élan de partage. Donc, je te remercie aussi d'ouvrir ça pour que ça puisse être partagé à ceux qui deviennent grand-père ou à ceux qui sont parents et qui ont peut-être aussi parfois... besoin de comprendre un peu plus ce qui se joue aussi quand on est grand-parent, quand on voit nos enfants devenir parents, quand on voit des choses qui nous parlent, d'autres qui nous paraissent vraiment étrangers. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui, dont aussi ceux qui sont sensibilisés au mois d'or, qui envisagent une manière parfois très différentes entre la manière dont ils ont été éduqués eux-mêmes en tant qu'enfants, dont leurs parents ont fait avec eux, et où parfois aujourd'hui ils ont envie de réinventer la manière de devenir parent, de se l'approprier, et puis parfois c'est très commun avec ce qui a été avant, parfois il y a des différences massives, d'autres fois il y a des choses qui se retrouvent, d'autres non, mais c'est tout un enjeu aussi au niveau de la relation, comment on a conscience en fait des enjeux qui se jouent entre les grands-parents, les jeunes parents, et comment on prend soin de cette relation pour qu'elle soit au service des uns et des autres, mais aussi de cette période du postpartum qui est quand même tellement délicate. Parfois c'est tellement nouveau pour les grands-parents, cette manière... aussi qui est à la fois nouvelle de voir leur postpartum, et en même temps on en parle beaucoup avec le mois d'or, le fait de prendre soin des parents, de les déléguer de tout ce qui est du quotidien, de prendre soin de la mère en postpartum, ça fait partie des savoir-faire, des savoir-être ancestraux qu'on retrouve dans de très nombreuses traditions. Et en même temps, pour beaucoup de grands-parents, il y a cette sensation que c'est complètement nouveau parce que ça n'a pas fait partie. Il y a eu aussi des sauts dans les générations. Eux, vous n'avez pas forcément connu, en fait, ces soins particuliers aux parents, à la mère en postpartum. Donc, il y a un peu l'idée que parfois, mais qu'est-ce que racontent mes enfants? C'est tellement loin des conceptions qu'on avait pour nos propres enfants que, enfin voilà, tu me partageais cet écart-là qui peut surprendre, qui peut faire peur, qui peut intriguer ou, Tu me parlais par exemple du fait que tu trouvais que l'enthousiasme des fois des parents, le fait qu'à un moment donné ils découvrent le mois d'or, le postpartum, une toute autre vision, du coup que tu sentais que ça pouvait être tellement massif que ça pouvait même faire peur, c'est ça, aux grands-parents?
Ben oui, parce que les enfants ils découvrent quelque chose par eux-mêmes et les parents c'est toujours inquiet d'un truc qu'eux n'ont pas vécu et qui soit complètement différent, quoi, tu vois.
L'écart en fait entre ce que eux ils ont transmis
dans ce qu'on eux on leur a transmis et que eux ont transmis à leurs enfants, en sachant que si eux ils l'ont fait avec leurs enfants quelque part par fidélité quelque part ils se doivent presque, enfin entre parenthèses, hein, reproduire le même schéma.
Oui, qui a ce principe de loyauté, un peu,
c'est
qui est mis en question.
Une forme de loyauté, c'est-à-dire qu'on va, dans la famille, ça se passe comme ça. Que ce soit au niveau culturel, ou alors associé à des idées religieuses derrière, ou pas, mais on reproduit ce qu'on a appris par les parents, parce que on est fidèle à sa famille. Et les enfants, en trouvant une méthode qui leur plaît beaucoup, et qu'ils ont envie de partager ça avec leurs parents, ben ils peuvent s'affronter. Leur enthousiasme peut créer une espèce de choc avec leurs propres parents, vu que les parents ils souhaitent que ça limite, que inconsciemment ça passe par eux, quoi, et que ça vienne d'ailleurs de je sais pas qui, ce qui peut engendrer une espèce de confrontation ou d'affrontement ou voire du conflit, parce que si les grands-parents l'accueillent pas et que les enfants eux-mêmes de leur côté sont un peu vexés que leurs parents l'accueillent pas, ça peut générer aussi chez eux une déception, quoi. Ça peut même aller jusqu'au rejet.
Non, on entend beaucoup des parents qui découvrent justement tout ça, qui ont envie de mettre ça en place. Et puis qui, au moment, quand ils ont le courage de l'exprimer à leur entourage, à leurs parents, se sentent un peu jugés, rejetés, ou qu'on leur rigole un peu au nez. Non, c'est quoi ces nouvelles choses? Nous, on n'a pas fait comme ça. T'es pas mort pour autant. Et du coup, ce que tu amènes là aussi, c'est que les grands-parents, de leur côté, c'est la même chose, en fait. Il y a ce même sentiment, soit d'être jugé dans ce qu'ils ont fait, soit d'être rejeté dans ce qu'ils voulaient transmettre.
Il y a un manque de reconnaissance de part et d'autre.
Ouais. Pour toi, c'est quoi les clés? Comment on fait dans ces cas-là? Parce que l'idée, c'est quand même de se rejoindre et d'avancer ensemble. Et puis là, c'est les nouveaux parents qui deviennent parents à leur tour. Donc, comment on fait pour se rejoindre et réussir à...
L'idée, c'est d'y aller peut-être de façon un petit peu plus subtile, plutôt que de créer une annonce très formelle, aller dans le courant de la conversation. Et plus il y a de moments où on communique, je crois aussi en plusieurs fois, pas forcément en une fois, on peut aussi partager ce qu'on vit, on peut faire sentir à ses parents ce qu'on est en train de découvrir, qui est intéressant, que c'est quelque chose qui est en train de se développer, il faut y aller avec à tâtons, avec beaucoup de... Mais en même temps, on fait partager aussi son intérêt par rapport à ce qu'on est en train de découvrir. Mais on le fait partager, on met pas ses parents devant le fait accompli quelque part. C'est quelque chose qui se travaille, quoi, tu vois, au niveau de la communication.
C'est justement complètement à l'inverse de se dire, ok, on fait une démarche un peu officielle, une fois qu'on a fait tous nos choix, on leur explique notre vision et avec un côté un peu, bah, on impose la manière dont on va faire avec l'idée de se faire respecter dans nos choix, mais du coup, c'est comme ça maintenant et c'est ça nos choix. Et vraiment, du coup, d'y aller au fur et à mesure de la relation et partir de son intérêt, de ce qui nous touche, de ce qui nous fait bouger, de nos découvertes et que petit à petit, on apprenne à se comprendre au fur et à mesure, en fait, de manière progressive.
Ouais, et dans l'idéal, c'est presque intéressant de pas attendre l'aval de ses parents. Tu partages quelque chose et à partir du moment où tu attends pas son aval, tu évites aussi la déception si ton parent, il le prend mal.
Eh oui, c'est précieux là ce que tu soulignes, parce que du coup, il y a tout le rapport de reconnaissance, d'approbation, d'aval qu'on a avec ses propres parents. Et puis en même temps, du coup, c'est complexe parce que souvent, il y a une attente, et ça pose justement peut-être la question de, ouais. Ok, quelles sont nos attentes? Dans le sens où quand on est jeune parent, on a aussi besoin d'être entouré, d'être compris dans ce qu'on vit. Et que les grands-parents, de toute façon, ils ont une place dans l'histoire. Alors sauf si on les voit plus du tout, ça c'est une autre, d'autres cas de figure. Ouais. Mais du coup, on a souvent besoin d'être entendu, soit dans le besoin d'être tranquille dans sa petite famille et de pas avoir tout le temps, l'entourage sur le dos, ou d'être respecté dans les visites, dans les choix, dans les commentaires. Et des fois, on a aussi besoin concrètement de manger, d'avoir de l'aide avec les aînés. Donc du coup, c'est tout le jeu de ok. On ne dit pas ça pour attendre leur approbation et qu'ils soient convaincus. Et en même temps, on a cette attente de pouvoir se sentir accueilli, d'être soutenu. Mais si on met trop d'attente là-dedans, on risque d'être déçu,
Et oui. Soit il l'accueille et là c'est merveilleux, soit il est très ouvert et là c'est super. Mais c'est pas forcément la majorité des parents, des grands-parents qui sont comme ça, quoi. Ouais. Tu vois, on a quand même des concepts éducatifs, même pour les gens qui se disent libres. Et dans le fait, on fait pas comme ça, on fait comme si. Ça, c'est schématique, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles, quoi. Tu vois, et ça se prépare à l'avance. Je pense que le facteur temps est partage. On partage les choses, tu vois.
Oui, c'est ça. On partage nos idées, on partage notre expérience, notre sensibilité, mais sans être du côté de je vais convaincre et c'est moi qui ai la vérité, et du
exactement.
Coup on se confronte en fait à la différence.
Exactement. Moi je peux faire des exemples par rapport à des vécus que j'ai eu où j'ai découvert des choses très importantes pour moi dans ma vie, et j'en ai parlé à des amis à moi avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai reçu un coup de bâton, quoi. Ouais. Si dans mon partage je me sens pas d'une part accueilli et après, je suis même critiqué et que ça m'éloigne de mes amis. Ben là, c'est tout faux, quoi.
C'est vraiment il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà le fait, ok, je me sens pas accueilli, on pense différemment, d'accord. Mais en plus, je me sens jugé, voire critiqué, voire rejeté.
Voilà. Alors, par rapport à des amis, c'est pas trop grave parce que tu perds cela, tu t'en feras d'autres.
Ouais, mais il y en a qui sont précieux,
mais
quand
tes
même.
Parents, c'est tes parents, c'est que tu veuilles ou pas, c'est tes parents pour toute ta vie, quoi. Tu vois.
Et puis qu'ils soient présents dans ta vie au quotidien ou justement loin, de toute façon, ça fait partie de nous, notre histoire avec nos parents,
ça,
avec notre filiation.
D'un ami, tu te dis il s'éloigne, inchallah, c'est comme ça. Ça me rend triste, mais c'est pas grave. Je sais très bien que dans ma vie, je vais me rapprocher de d'autres personnes et puis il y a autre chose qui va se créer.
On observe ça d'ailleurs souvent dans les moments de transition. Comme avec le postpartum et dans d'autres moments de transition où il y a aussi tout un remaniement de notre identité, de nos priorités, de nos valeurs, parfois on change aussi de relation sociale et c'est d'autres nouvelles relations qui se créent. Ça veut pas dire que c'est pas souffrant d'en perdre certaines, mais on évolue en fait aussi, on bouge de l'intérieur dans nos relations aussi, mais le fait est que les parents, on est plus ou moins proches, mais eux, ça reste les mêmes.
Les parents, ils sont là, et puis si on veut que ce soit agréable, paisible, chaleureux, il faut préserver ces relations-là, quoi.
Ouais.
Il faut aussi, faire attention de pas se sacrifier soi-même, tu vois, par rapport à ses parents. En voulant être fidèle et pas rejeter, du coup, on lâche ce pourquoi on a énormément d'intérêt et d'enthousiasme. Parce que d'une part, il y a quelqu'un qui suit, c'est un enfant. Et lui, il va aussi vivre tout ça, tu vois. C'est il y a les ascendants et il y a les descendants aussi là-dedans.
Et puis d'ailleurs, on voit que ça se rejoue et ça c'est assez incroyable aussi de se dire ok, ceux qui sont les grands-parents d'aujourd'hui, bah c'était les jeunes parents d'hier, donc eux aussi ils ont vécu soit bien des sûr. Différences, soit un collage majeur aussi à leurs propres parents. Mais nos enfants qui aujourd'hui sont en train de naître ou viennent ou juste quelques années quand on est jeune parent, bah eux aussi ils vont faire à leur manière en
bien
fait.
Sûr.
Donc ça c'est, je trouve que c'est toute une notion de bah la vérité, même des découvertes scientifiques, de l'évolution de la compréhension en fait de l'humain, du corps, de la psyché.
Ouais, et puis comme on dit dans certains milieux là. La compréhension du temps qui arrive aussi.
Ouais.
Les défis de maintenant ne sont pas les mêmes des défis de nos parents. C'est des générations qui sont d'après-guerre, quoi. Mmh. Voilà, ils étaient enfants pendant la guerre. Donc, il y a ce traumatisme-là. Ça dépend où ils se sont trouvés, mais il y a quand même cette mémoire traumatique. Mmh. Et après, ce sont les années glorieuses. C'était une forme d'abondance, quoi. Tu vois. Mais la génération qui suit, donc la mienne, on n'a pas du tout le même... centre d'intérêt, quoi. Mmh. Tu vois, moi, je suis dans la génération hippie, c'est l'amour, les fleurs, là, enfin.
C'est ça, t'es né en 56.
Moi, je suis un adolescent de 68, moi, je suis pas un adulte.
En tout cas, c'était vraiment dans l'air du temps quand toi, tu t'es construit, quoi.
Surtout avec des frères et sœurs qui sont un peu plus vieux, donc.
Oui, donc l'époque change, les mœurs changent aussi, le rapport à l'éducation.
Les défis de ton génération, je parle pas des familles et des cas particuliers, le défi de du collectif de la génération dans laquelle on vit, il change aussi.
Pour toi, là, comme ça, spontanément, les défis que toi, t'as vécu, justement, en tant que jeune parent, la différence avec les défis d'aujourd'hui, les jeunes parents, tu saurais un peu différencier, justement. Il y avait cette époque un peu de post-68 dans notre esprit, d'une éducation de vos parents qui était quand même aussi vraiment différente.
Bah, nous, on peut dire que 68, c'est quand même la libération sexuelle, et puis... on sort de tous les tabous, qui se soient, comment dire, au niveau de la société ou au niveau religieux. Parce que les tabous, on les enlève, quoi. Tu vois, c'est...
c'est fou quand tu dis ça, parce que nous, avec le mois d'or, je vois comment on se bat pour enlever les tabous et le nombre de couches, en fait, de tabous qui sont à chaque fois révélés aussi par chaque génération avec des niveaux différents.
Alors, il faut savoir aussi que des fois, une génération qui a enlevé les tabous, il peut avoir des enfants qui remettent les tabous des grands-parents en place.
Eh oui, ouais.
Tu vois, c'est, ça saute une génération.
Ouais.
Mais des fois, les petits-enfants vont récupérer les dossiers des grands-parents. Tu vois? Ça, c'est impressionnant, quoi. Moi, des fois, je suis impressionné par des enfants de gens un petit peu 68 ans, comme moi, un petit peu dans, cheveux longs, un peu hippie, enfin moi je me situe un petit peu là-dedans, quoi, même si j'ai jamais adhéré à aucun mouvement, moi. Le défi de 68, c'était la liberté. Et après, on est revenu sur des trucs beaucoup plus carrés, machin, sorti, là. Voilà, jusqu'à.
Oui, c'est ça, il y a un retour finalement à quelque chose de plus rigide. Et moi, ce que j'observe aussi, alors je sais pas si on peut faire le lien avec ça, mais c'est que en fait il y a une sorte d'amnésie. Moi j'observe beaucoup ça, la question de la mémoire, le fait que tu vois les grands-parents, enfin je sais pas à quel point c'est généralisable, mais on a cette impression, et avec tous les nouveaux parents, qu'il y a beaucoup de grands-parents qui ont oublié cette période-là de vie et qui parfois ont oublié à quel point ça pouvait être éprouvant, les nuits sans sommeil, le besoin de proximité du bébé, aussi parce qu'il y avait des pratiques d'éducation différentes, mais parfois aussi un rapport à la mémoire, au souvenir, qui comme switchait un petit peu et oubliait en fait certaines phases de vie. Et du coup, ça me fait penser aussi à ça quand tu dis il y a des moments d'expérience, de libération, et après un retour, c'est comme si parfois on oubliait aussi les tabous pour lesquels on s'est battu, et les valeurs, les élans, la flamme qu'on portait, et puis il y a cette entrée aussi dans la société, dans tout ce qu'elle nous impose aussi de nos conditionnements, et comme si on oubliait aussi petit à petit, puis parfois c'était tellement intense que finalement on s'en rappelle plus, mais on entend beaucoup ça, là, du genre oh c'était pas si compliqué pour nous quand même, enfin un bébé ça dort, tu poses dans son lit et puis il va apprendre à dormir, enfin c'est quelque chose que les jeunes parents ils entendent beaucoup et qui sont durs en fait à se dire mais mince alors vous vous rappelez pas, enfin comment ça se fait quoi, et je sais pas comment on explique ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, tu vois cette question là de la mémoire et qui rend difficile la transmission aussi, parce qu'il y a un moment donné c'est comme si on ne se comprenait pas, en fait, on ne parlait pas le même langage, pas la même expérience, et qui crée un fossé aussi entre les jeunes parents et les grands-parents aujourd'hui.
Mes parents qui étaient déjà des gens très ouverts, mais il y avait quand même d'ailleurs des rigidités éducatives en place, quoi.
Ils étaient ouverts, très ouverts pour leur époque.
Mais il y a des gens de l'époque qui n'étaient pas très ouverts et c'était rigide, quoi. Mm. Si tu fais pas ça, tu te prends une rouste, quoi. Mm. Tu vois, donc on n'est pas du tout dans le même plan que nous, moi-même avec mes propres enfants, où c'est déjà, voilà, on essayait de faire autrement. Oui. Voilà. On était plutôt en train d'essayer d'arrondir les angles, enfin de faire la frite molle ou
Mais cette histoire de frite molle, elle est célèbre dans notre famille.
Oui, elle est importante.
La frite molle, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ce que c'est le fait de se concentrer sur de pas porter attention au comportement négatif un peu de l'enfant.
Ouais, c'est ça. Ouais, on essaye de ramollir pour sortir, pas rentrer dans le conflit et être dans la transmission.
Ouais. Et puis avec ce concept de la frite molle, qui est un concept éducatif sur lequel on avait beaucoup parlé, notamment moi quand je suis devenue maman aussi, et sur le fait de porter encore plus d'attention dans les moments où l'enfant il est dans sa dimension créative, dans sa dimension communicante. Exactement. Et que les moments un peu compliqués, c'est pas qu'à ce moment-là on ne le regarde plus et on l'oublie complètement, mais bien on sûr. Se concentre pas là-dessus parce que l'enfant ce qu'il veut c'est l'attention.
Ouais.
Et si on se concentre que sur les moments où bah il est en train de crier parce qu'il a besoin d'attention et que c'est comme ça qu'il la cherche, du coup il va comprendre ok quand je fais ça on s'occupe de moi. Exactement. Donc j'augmente ça et puis finalement quand je suis sage,
je pense qu'il faut décrypter les codes de fonctionnement de ses enfants et forcément si on a un enfant ou plusieurs ils vont avoir des codes différents aussi.
D'ailleurs on voit bien en tant qu'avec les mêmes parents on n'a pas tous les mêmes histoires, on n'a pas tous les mêmes personnalités et on ne va pas tous transmettre la même éducation à nos enfants alors qu'on a eu la même à la base.
Exactement.
En tant que
frère et sœur. Exactement.
Cette dimension de la frite molle, elle me fait aussi penser et justement s'intéresser à ce qui est valorisant, ce qui est bon, ce qui nourrit la relation. Ça peut être aussi une clé quand tu disais d'y aller progressivement tout au long de la grossesse, de partager petit à petit nos intérêts et peut-être aussi dans la relation, comment dire, de soutenir, de mettre l'accent sur qu'est-ce que vous m'avez transmis et que je retiens, que je valorise.
Ça, oui.
Aussi, quelles sont vos façons d'être grands-parents ou qu'est-ce que j'aime chez vous et que j'aimerais précieux pour mes enfants. Parce que c'est vrai que parfois, dans la difficulté des jeunes parents de voir cet écart avec leurs parents, pour ceux comme ça, il y en a pour qui ça se passe très bien, il y a une osmose et c'est magnifique. Mais il y a aussi ce fait de parfois... tellement fixé sur certaines phrases, sur certains comportements, qu'on se concentre aussi sur le négatif, et que du coup, on vient comme cristalliser davantage les conflits, que le grand-parent se sent aussi jugé dans sa manière d'être, dans ses propres principes, tandis que si à un moment donné aussi, on se met d'accord sur, ok, c'est quoi nos valeurs communes, et nous, voilà, ce qui nous touche, ce qui est différent, mais vraiment, comme tu le disais, ça, je pense que c'est vraiment une clé, le partage, et d'y aller touche par touche et dans des moments favorables, pas avec la volonté de « aujourd'hui, je vais expliquer ma façon de penser et ils ont intérêt de me suivre ».
Bah ouais, il faut pas vouloir convaincre ses parents, comme le phénomène que tu ne supportes pas que tes parents essayent de te convaincre d'un truc qui est pas forcément le tien. Tu vois, le sentiment de conviction, il faut le mettre en douce, en veilleuse, voire le laisser dans le vestiaire. Mais le partage, on partage et on cherche pas à être reconnu dans notre partage, quoi. Tu vois, c'est comme si je donne 2 euros à quelqu'un qui est dans la rue et je cherche
tu
pas.
Tu donnes son... pas pour recevoir
voilà,
la gratitude.
Ça, je vais pas chercher de la reconnaissance. Ouais.
Et ça, c'est super important aussi parce que moi, j'ai observé que parfois, notamment dans ce service à l'autre, on pouvait avoir tendance à être, comme tu le dis très bien, dans « ok, je donne, mais quelque part, je ne suis pas complètement du côté d'un don désintéressé, d'un service désintéressé, parce que j'attends soit un service en retour, soit de la reconnaissance, soit une action. » Et du coup, il y a ça aussi des fois, quand on fait partie de l'entourage, de la tribu des familles en postpartum, de se dire « ok, bon, bah, je... » je viens, je donne un coup de main, mais en échange, je veux pouvoir être près du bébé ou je veux avoir des merci. Alors, bien sûr, ça, on a envie, mais parfois, on ne l'a pas toujours sur le moment parce que la petite famille, en fait, juste, elle n'a pas dormi. Il y en a partout. il y a les, enfin, tout ce qui se passe au niveau de la matrescence, des chamboulements identitaires, émotionnels et tout. Et on n'est pas toujours en mesure de, bah, de donner de l'attention à la personne qui vient nous aider ou, et du coup, ceux qui sont au service peuvent se sentir un peu malmenés,
oui.
À part que c'est dans le temps que ça se joue, en fait. C'est pas un échange donnant-donnant. Bon, bah, je viens t'aider à ranger ta maison, mais du coup, on passe une heure à discuter parce qu'en fait, là, je peux pas, j'ai besoin de dormir, de m'occuper de mon bébé. Ouais. Mais par contre, dans le temps, ça nourrit, en fait, la relation.
C'est pas un troc.
C'est ça. C'est le service désintéressé.
Ouais,
quoi.
C'est ça, oui. Et puis, dans le mot tribu est magnifique. Je l'aime beaucoup. À condition qu'on soit pas tributaire. Si on est tributaire d'une pensée globale, on est prisonnier d'une pensée qui veut qu'on soit comme ci, comme ci, comme ça. Et moi, ça, c'est le mauvais côté de la tribu. Je sais pas trop quel mot mettre à la place, peut-être famille ou autre chose, mais c'est un mot très, très subtil. Dans une tribu, on n'est pas obligé d'être fidèle à la tribu, tu vois.
C'est très rigolo ce que tu dis parce que nous, on utilise aussi le terme de tribu parce que on considère aussi que bien que ce soit très important de porter attention à la qualité du lien avec sa famille de sang, aujourd'hui, on observe qu'il y a d'une part la distance géographique qui est là pour beaucoup et qui rend que c'est difficile d'être en lien de proximité, de se sentir soutenu de manière active.
Ça, c'est un défi de régénération.
Et puis, il y a aussi... Alors ça, oui, tout à fait, parce que plus ça va, vous avez commencé à vous décaler un peu, mais nous, parfois, on a envie que les grands-parents soient là, mais ils soient à 600 km, donc comment on s'organise pour qu'ils puissent venir.
Ou à 6000 ou à 12000.
Exactement, voilà, maintenant, on est encore dans... Et je pense que nos enfants, ça sera encore...
C'est assez courant.
Ouais. Et il y a cette distance géographique, mais il y a aussi cette distance de pensée qui fait que parfois, et ça ne veut pas dire qu'on rejette la famille de sang, mais il y a aussi la création de liens qu'on choisit et ce qu'on appelle aussi la famille de cœur, tu vois. Et du coup, nous, c'est aussi cet élargissement de choisir les membres qui font partie de ce qu'on appelle le cercle des bonnes étoiles aussi, tu vois, ceux qui se tiennent la main, sont présents les uns pour les autres dans les étapes dont fait partie de postpartum. Et que du coup, c'est ça qu'il y a derrière le tribu. Et on voit bien à chaque fois comment, effectivement, c'est à partir du moment où tu nommes le fait que la tribu, on peut être tributaire. Bah, c'est pareil, la famille, il y a cette loyauté, on peut être coincé. Mais comment, oui, on fait avec la famille qu'on a. Et en même temps, on est aussi acteur des choix, des relations qu'on a et de la qualité des relations qu'on a avec ces personnes-là. Ouais.
Si la famille est générée par un sentiment qu'on appelle l'amour, tout est possible. Et s'il y a une énergie d'amour, là, il y a de l'ouverture.
Donc, comme on disait avec le mois d'or, des fois, on a envie que cette tribu ou c'est les grands-parents dont en font partie aussi et tous les membres des proches, à la fois respectent la petite bulle du petit noyau familial, de la petite cellule familiale, et en même temps, mais puissent vraiment donner des coups de main qui soient vraiment utiles aussi. Est-ce que toi, t'aurais, je sais pas, pour les grands-pères ou les grands-parents ou les tribus, comment on accueille l'intention qu'a cette petite famille parfois de rester aussi seule, qu'on n'aille pas tout le temps les voir, ou à l'inverse qu'ils nous demandent de mettre la main à la pâte alors que c'est pas ce qu'on trouve le plus valorisant, mais en même temps ils en ont besoin. Comment on accueille ça quand ça nous déstabilise?
L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas l'un ou l'autre, c'est qu'il y ait une globalité, quoi. Tu vois, quand on rend service, ça c'est évident, mais on rend d'autant plus service que quand il y a l'essentiel, c'est-à-dire une relation humaine, amicale, voilà. Je dirais, si le mot amour est trop fort des fois pour certaines personnes, le mot amical et même au niveau parent, enfant, petit enfant, sentir de la vibration amicale. Et là, on vit tout ensemble, on partage des moments ensemble, on mange ensemble des fois, on va se promener quand c'est possible, sans suite. Et on partage aussi des moments où on a besoin et ça fait partie de l'amitié. On donne un coup de main, on va pas aller troquer un coup de main, quoi. Tu vois, si tu donnes, si quelqu'un a besoin, tu donnes.
Ouais.
Et t'attends pas de retour. Tu vois. n'y a pas de retour.
C'est... Oui, ou ça se trouve, le retour, il sera dans 25 ans, quand il y aura un besoin qui sera passé.
Ou tu vas avoir un retour avec quelqu'un d'autre.
Tout à fait, quelque chose de plus circulaire aussi.
Beaucoup plus global.
Ça, c'est super important ce que tu dis, parce que moi, je vois aussi beaucoup de personnes, notamment si on oublie la question des grands-parents, mais vraiment de la tribu, des amis, ouais. des collègues, des choses comme ça, où en fait, il peut y avoir la difficulté même de recevoir du soutien concret, parce que ça veut dire que si je reçois de l'autre, je vais devoir lui rendre.
Ouais,
et en fait, moi, je vais pas forcément être disponible pour son postpartum ou pour un autre besoin de vie.
Non.
Et du coup, c'est comme si ça met une sorte de contrat ou d'endettement
ouais.
qui fait que du coup, ça me restreint en fait d'oser demander, d'accepter de recevoir,
ouais.
parce que mince, ça m'engage dans un dans une sorte de contrat un peu implicite.
Ouais,
et après, j'ai peur d'être coincée dedans. À part que là, tu soulignes un principe qui est fondamental, la dimension circulaire.
Mm.
Ça veut dire que je peux recevoir d'une personne, mais en fait, ne pas rendre directement à cette personne, mais rendre à celle, à une autre personne, et que ça circule, en fait.
Quand tu vas aider quelqu'un, tu lui rends pas service. tu vas lui donner ton temps, de ton savoir, sans suite. Tu le donnes,
ouais.
et il y a pas de rendu là-dessus. C'est le mot rendre. On voit rien. Rendre, ça veut dire la dette. Mais on n'a pas de dette. Même avec ses parents, on n'a pas de dette. Avec ses grands-parents, on n'a pas de dette.
Ouais. Oui, mais c'est du coup aussi être accueillir la notion qu'il y ait plus forcément d'attente ou que les attentes ne soient pas comblées aussi justement pour mettre de la liberté et de la fluidité en fait dans
Exactement.
Ces relations et dans ce donner-recevoir là ouais. qui est essentiel.
Bien sûr.
Dans...
C'est humain qu'il y ait de l'attente.
Oui, une attente c'est quelque chose de naturel, mais si elle est trop massive, pressante, elle peut aussi oppresser l'autre et c'est la manière dont on va accueillir le fait que l'autre soit libre de dire oui, de dire non, de comprendre, de pas comprendre. Ça remet pas en cause que bien sûr on avait envie d'être entendu, bien sûr on a, tu vois, cette attente naturelle, mais on n'est pas figé dans notre attente.
On partage.
Voilà. Et on
ne
vient pas
plat.
Non plus dans le conflit si
tu
on n'est pas entendu.
Tu partages ton plat. Des fois, il y a des gens qui vont l'apprécier énormément, d'autres beaucoup moins, quoi.
Ouais.
Tu vois, gratuit, ça veut pas dire je fais tout et n'importe quoi.
Bien sûr.
Mais c'est gratuit. C'est un acte gratuit. Moi,
voilà.
J'adore ça.
Mmh.
Même dans la relation d'aide, moi, j'adore la. J'adore qu'on vienne m'aider, mais j'adore aller aider les autres. Pour moi, ça fait partie du courant de la vie. Mais c'est pareil quand on a des enfants, on aide la transmission de la vie. On est dans le maillon de la transmission de la vie. Ce qu'on peut, on n'est pas obligé d'aimer ses parents, mais ce qu'on leur doit, c'est qu'ils nous ont permis de nous incarner, quoi. Tu vois ? Ça, pour moi, ça, c'est pas une croyance, c'est une réalité, quoi.
Comment c'est important de respecter, en fait, d'honorer le fait que ces personnes-là m'ont donné la vie.
Ouais.
Et pour autant, on n'est pas dans une obligation d'amour
non.
ou de type de relation, mais le fait
non.
est qu'à un moment donné, ça a été eux qui se sont aussi occupés de moi, qui ont transmis
Bien
la
sûr.
Vie, qui ont pris soin du petit bébé dépendant que j'étais. Et comment, avec ça aussi, tu parlais de transmission, mais on observe beaucoup à quel point cette transmission, elle est plus si présente que ça, en fait. Il y a quelque chose qui est transmis, oui, quand on est enfant, par l'éducation, mais le fait que les grands-parents d'aujourd'hui transmettent sans imposer des modèles éducatifs, mais vraiment cette transmission naturelle qui s'est pas par la volonté, mais qui fait parce qu'on vit ensemble, du coup, ben, on voit comment les uns et les autres fonctionnent et on prend ce qui nous convient et on ne prend pas ce qui nous convient pas, et ça veut pas dire qu'on juge, c'est juste ok, ça c'est pas ce que je choisis de recevoir et d'incarner moi-même en tant que nouveau parent, et ça c'est tout un cheminement aussi quand on devient parent, dans la matrescence, dans la
bas-présence,
de faire ces choix là en fait, et sans que ce soit violent ou rejetant pour les grands-parents.
Et puis le défi de votre génération à vous, c'est que les enfants, comme ils sont des fois à l'étranger, loin de leurs propres parents, c'est-à-dire qu'ils se créent aussi des relations autour d'eux là où ils habitent, surtout s'ils sont depuis longtemps.
Oui, avec la distance.
Que les grands-parents, c'est eux qui ont transmis la vie, mais ils sont plus trop dans le circuit de connexion rapprochée.
Ouais, donc, complètement. Bah, avant, des fois, on partageait même une maison, on était dans le même village.
Ouais, c'est ça. Et là, du coup, quand il y a des jeunes comme ça qui partent à l'étranger, au Canada ou ailleurs, eh bien, petit à petit, ils se créent aussi sur place une façon de recevoir de la transmission dans le pays où ils vivent, ils s'en suivent. Et ça aussi, ça, c'est important pour la c'est plus les mêmes modes de relationnel.
Oui. Oui, puis on va aussi vers plus d'individualisme et quand on n'est pas vraiment ensemble au quotidien ou en tout cas qu'on se voit pas régulièrement, on devient aussi parfois un peu étrangers les uns aux autres.
Bien sûr.
Et du coup, c'est compliqué de se rejoindre à des moments en plus d'autant plus sensibles et qui font ressortir aussi tellement d'émotions. Quand on devient parent, il y a tout ce rapport où nous on est nés, le grand-parent aussi, bah lui, quand il est venu parent, il y a tout qui se mélange un peu et qui est mis en branle. Et quand on est en plus, quand le lien était pas vraiment proximal aussi finalement, bah du coup, pour retourner dans l'intime, là où on était parfois devenu un petit peu pas forcément étranger, mais distant en fait, parce
bien
qu'on
sûr.
On se connaît moins au quotidien et en même temps, bah on a la liberté de faire ses choix de référence, ses choix de tribus.
Et puis entre les grands-parents, les parents et aussi les enfants à venir ou à, éventuellement les arrière-grands-parents, on n'a pas vécu les mêmes choses.
Mais non. Et savoir s'ajuster au code de l'autre. Moi, je sais que vraiment comprendre l'autre là où il est plutôt que de rester centré sur sa place personnelle, sa perspective, son expérience, se déplacer jusqu'à l'autre et tenter aussi de parler son langage. Enfin, moi je sais que en comprenant même parfois l'histoire professionnelle, familiale de trouver des images en fait, des comparaisons, de se rappeler une expérience qu'on a en référence en commun et du coup se rapprocher du code de l'autre pour être mieux compris aussi quoi.
Bien sûr.
Et on a ce chemin à faire aussi avec moi je trouve en tant que jeune parent avec nos parents aussi de
Ça, c'est clair, parce qu'il faut apprendre leur code.
C'est ça. Et vous, en tant que grands-parents, de comprendre nos nouveaux codes aussi, et que l'un et l'autre, on ait cette petite danse pour...
Théoriquement, des parents qui sont réceptifs avec leurs enfants, et c'est... Enfin, je dirais pas que c'est naturel. Dans mon vécu, c'est des trucs qu'on a beaucoup développés. Enfin, chez des gens, c'est beaucoup plus naturel. Moi, c'est des codes que j'ai appris, parce que j'ai été dans la vigilance.
C'est passionnant. Je pense que ça fait aussi partie de la beauté de cette qualité qu'on a, parce que là on parle quand même en tant que père-fille, et de nos nombreux échanges et débats, et j'aime beaucoup partager avec toi de tout ça et de plein d'autres sujets d'ailleurs. Est-ce que pour finir, mine de rien, on a aussi vécu cette expérience en tant que père-fille, et donc toi en tant que jeune grand-père, et moi en tant que jeune maman, quand ma fille elle est née, est-ce que justement, je sais pas... T'as envie de partager des choses sur toi, comment t'as vécu le fait de devenir grand-père et dans ta relation avec ta fille qui devenait maman. Qu'est-ce que ça change? Comment ça fait bouger les choses? Puis qui devient maman mais qui a aussi son propre couple, donc avec un autre fonctionnement que moi j'ai créé avec ma petite famille aussi. Ou comment t'as toi trouvé ta place? Quand nous, on est devenus parents aussi, quelle place de quelle manière t'as apporté ton soutien aussi, qu'est-ce qui était naturel, et à l'inverse, là où t'as dû t'ajuster aussi, parce que...
On n'a pas à demander une place ou quoi que ce soit, faut laisser de la place, surtout, tu vois, faut laisser faire. On a des enfants qui grandissent, ensuite ils arrivent à l'état adulte, et ils ont un désir de se mettre en couple, ils ont un désir d'avoir des enfants, ensuite, et ça leur appartient. On s'immisce pas dans l'histoire de nos enfants, mais on observe, voilà, on observe, on apprend, c'est de l'apprentissage. On ne naît pas, moi je suis pas né père, je suis devenu. Je ne nais pas grand-père, mais je suis devenu. Voilà. Tu vois? Et ça, c'est des formules très importantes. Pour moi, il y a des gens, ce sont des pères, c'est inné, tu vois. Moi, j'ai appris à devenir père, tu vois. Ça fait partie de mon histoire. Et j'ai appris à devenir grand-père. Et dans l'apprentissage, il y a apprenti et il y a sage. Et on apprend à observer, on apprend à être, à observer. Et en même temps, ce qui appartient à un couple, ça lui appartient. Et s'ils donnent la vie à un enfant, ça leur appartient. C'est le fruit de leur amour, mais c'est aussi leur responsabilité. Et c'est pas la responsabilité du grand-père que ses enfants ils aient un enfant. C'est pas sa responsabilité. Mais par contre, la responsabilité qu'on a avec son enfant, forcément, si on l'a avec son enfant, tout de suite, ça glisse au petit enfant, quoi. Tu vois? Mais en aucun cas, on est juste là pour soutenir. Hein, c'est tout. Soutenir, être dans l'amicalité, comme on disait tout à l'heure, ou la vibration d'amour quand il y en a. Tu vois, c'est qu'on a appris à aimer. Enfin, pour les gens qui ont appris, tout le monde n'a pas appris à aimer. Donc, et si on apprend à aimer, ben forcément l'amour, ça coule, quoi. Tu vois, ça coule de source. C'est une source. Tu vois, et on n'a pas s'immiscer dans les. Voilà. Par contre, s'il y a une difficulté, faut être sur le pont.
Oui, c'est ça. Donc on s'immisce pas, mais quand il y a un besoin,
on
est présent.
Ouais, parce qu'on a, comment dire, si on a la responsabilité d'avoir donné la vie à un enfant, quelque part c'est à vitam aeternam. Hein, ça c'est pas jusqu'au moment où il est adulte qu'il fait sa petite famille que ça s'arrête, quoi. Tu vois, c'est un truc. Voilà, mais après. Bien sûr, l'enfant, il devient adulte, il s'en suit, il gère sa vie, c'est normal, c'est très bien comme ça. C'est très, très bien comme ça. Et là, le grand-parent, il n'a pas s'immiscer là-dedans, mais par contre, il est présent.
C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais d'anticipation sur le fait de, notamment dans les partages, du fait de petit à petit parler. Est-ce que ça te parle? Nous, on parle beaucoup avec le mois d'or du fait que les couples et du coup, avec leur entourage, se préparent en amont, donc pendant le troisième trimestre de la grossesse, les trois derniers mois, justement parce que le mois d'or, ça s'anticipe aussi. Est-ce que ça te parle si, en tant que grand-parent, on puisse aussi poser le fait de dire, nous, on est là pour vous de la manière dont vous avez besoin, mais parlons de ces besoins-là aussi avant, parce que parfois, ils ont du mal à être formulés aussi. Comment on peut être... j'aime beaucoup ce que tu dis, il y a à la fois le côté « Ok, je suis dans l'observation, je m'ajuste, je m'immisce pas, et en même temps, je suis là quand il y a besoin. Mais pour être là quand il y a besoin, il faut aussi créer ces espaces qu'on peut poser ensemble. Mais c'est quoi qui vous soutiendrait en fait ?»
Il faut partager.
Et concrètement aussi.
Partager ses demandes, partager ses attentes, sans attendre qu'elles soient validées.
C'est ça.
On ne doit pas être dans la... faut pas que ce soit violent. Voilà. On ne doit pas imposer. C'est du partage. Si on va dans le partage, il faut que ce soit aussi la demande des grands-parents de ça aussi. Parce que tous les grands-parents n'ont pas cette demande-là non plus. Parce que c'est pas dans leur disquette, ils ont pas appris, ils se sentent démunis.
Oui, mais c'est ça. Il y a vraiment des profils de grands-parents qui pressentent et qui ont envie de s'investir et qui s'intéressent et qui de eux-mêmes vont avoir envie de s'informer, de participer. Et puis il y en a d'autres où ça va plutôt être les jeunes parents qui vont leur proposer, les sensibiliser, venir les chercher un petit peu. C'est ça. C'est vrai que nous, c'est un petit peu ça avec, tu vois, ce kit tribu là qui est proposé pour les grands-parents et la tribu qu'on a créée avec le mois d'or, c'est aussi de se dire, ok, on crée quelque chose qui est vraiment adapté pour que tous les grands-parents ou toutes les tribus qui veulent s'investir auprès des parents elles puissent avoir cette ressource, en fait, ce support pour comprendre les enjeux des jeunes parents et pour comprendre, ok, quelle peut être ma place? Parce que de la même manière qu'on dit parfois les papas, ok, quelle est ma place? Mais les grands-parents, ils se posent aussi cette question-là, les amis aussi. Comment on peut aider sans déranger? Comment on peut ne pas être maladroit? Parce qu'on voit que c'est aussi fréquent. Et puis, il y a parfois, tous ces grands-parents qui n'ont pas écouté du premier abord, mais qui, ça se trouve, écoutent là, ou vont se faire offrir tout ça, ce kit là aussi pour servir de support commun. En fait, je trouve que quand on a une base, tout à l'heure, tu parlais des codes. Mais c'est important aussi d'avoir cette base commune pour essayer de parler le même langage. Sinon, on est sur deux planètes différentes.
Bien sûr. Et ça, en tant qu'âme, qu'il n'y ait pas trop de conflits relationnels entre les grands-parents et leurs enfants, d'une part.
Il y a tout l'historique après la relation qui, bien sûr, est clairement active.
Ouais. Quand même, ce qui fait que l'enfant et qui crée un couple et puis une petite famille, il ne va pas laisser la porte ouverte à ses parents.
Il y a tout l'historique qui peut se réveiller à ce moment-là. Et en même temps, il y a parfois ça, les blessures reviennent, se rejouent, et puis en même temps, c'est une occasion aussi.
C'est une opportunité de guérison, mais il faut pas s'en servir comme un outil thérapeutique.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça peut être une occasion, mais bien sûr, c'est pas comme ça.
Si ça amène de la guérison, tant mieux, mais il faut que ça vienne spontanément, quoi. Tu vois? Si on, faut pas faire ça pour ça.
Ouais.
Mais bien sûr, qu'en tant que parent, ça, c'est pas, je vais pas la, te l'apprendre, ça. Quand tu deviens parent toi-même, tu comprends des fois un petit peu mieux tes parents, quelque part,
tu vois. Et est-ce que quand tu deviens grand-parent toi-même, tu comprends un peu mieux tes parents quand ils sont devenus grands-parents
aussi?
C'est
clair. C'est clair.
Et oui, tu mesures un peu plus les défis, les enjeux, les contextes qu'ils ont pu traverser,
Ouais. Voilà.
Et ça, à tous les stades.
Et quand il y a un enfant d'une famille, il y en a un, mais quand il y a 5, voire 10.
Et oui, et chaque expérience différente, et d'ailleurs, chaque expérience de grands-parents et
de
relations.
Aussi, toute famille est différente d'une autre. Tu vois?
Ouais.
Et ça, c'est très important aussi. Parce que quand on a un esprit de groupe, par rapport à, enfin, une façon de penser, choses comme ça, sans suite, il faut se dire que c'est un superbe instrument, mais il faut qu'il soit applicable dans tous les schémas familiaux, quoi. Tu vois? Et ça, il faut aussi que ce soit qu'on puisse l'adapter.
C'est ça. On n'est pas dans un modèle unique, dans un diktat. Il y a vraiment un ajustement, des variables, des nuances.
Bien sûr.
Et oui. Et justement aussi de se dire que ok, ce qui ne peut pas être vécu dans telle relation pour telle raison. Alors il y a d'autres choses qui peuvent être vécues dans cette relation, mais c'est tout l'intérêt, je trouve aussi, de cette constellation. De personnes qu'on a autour de nous aussi, parce que ben voilà, il y a des choses qui peuvent être vécues avec l'un, il y a des types de soutien, il y a des types de discussions, mais qui n'ont pas à pouvoir être vécues avec un autre, et inversement. Tout attendre d'une même personne ou d'une même figure, bah ça nous crée forcément des situations qui nous mènent à de la frustration, à de la difficulté, de se dire ok, bah ce que je peux pas vivre avec toi, peut-être que je vais le vivre avec quelqu'un d'autre et c'est ok.
Exactement.
Ça se complète.
Faut apprendre aussi c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est le dénominateur commun. Faut identifier le dénominateur commun. Et il faut apprendre à identifier avec le plus de vista ou de conscience possible ce qui nous rassemble, ce qui nous éloigne, nous différencie. Ça, on va très vite le comprendre.
Et oui.
Mais ce qui nous rassemble, des fois, on va avoir du mal à comprendre vraiment ce qui nous rassemble. Qu'est-ce qui rassemble des gens dans une famille? Qu'est-ce qui rassemble deux êtres dans un couple?
Et toi, ça a été une clé pour toi, du coup, ce dénominateur commun, notamment dans ta relation, enfin, tu vois, dans notre relation à tous les deux, de toi avec tes enfants et dans ta grand-parentalité aussi, de comprendre, ok, où est-ce qu'on se retrouve, en fait? Où est-ce qu'on se comprend? Et comment je nourris, en fait, cette partie du lien-là, du dénominateur commun?
Bien sûr.
Ouais.
Et pour moi, c'est l'échange, la parole, c'est le sentiment d'amour fondamental ou d'amitié si on ressent pas l'amour, mais l'échange, le respect, s'écouter, s'écouter les uns les autres, même si on a des pensées différentes, et même si on a des états conflictuels, quelque part, ça fait partie aussi de la maturation. C'est parce que des fois il y a un tchic tchic que après il peut y avoir aussi une grâce qui vient derrière, quoi, une ouverture.
Tout à l'heure, tu as nommé apprentissage et ça me parlait beaucoup, cette coexistence, du fait que c'est vraiment une découverte. On apprend en permanence et en même temps il y a cette sagesse, il y a cette ressource intérieure qui est là. Donc c'est comment je fais confiance à ce qui est déjà en moi, en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup ça dans la parentalité aussi, comment je fais confiance à mes ressources intérieures et en même temps comment j'apprends, comment je suis pas, tu le disais tout à l'heure, j'étais pas père inné, j'étais pas grand-père inné, mais je le suis devenu. Donc j'ai appris, en fait. Et en même temps, tout ça m'a amené de la sagesse et en même temps, il y avait quelque chose qui était là à la base, mais qui était en construction, vraiment en construction. Et je trouve qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on est tous, en fait, dans cet apprentissage-là, on joue, on tâtonne dans nos relations aussi, et on en fait un chemin de croissance dans lequel on grandit ensemble, plus ou moins proche, plus ou moins lié, mais ça ouvre à une perspective d'évolution aussi, et que c'est du coup en changement, en adaptation permanente, et que ça sera aussi en changement et en adaptation pour nos propres enfants qui deviendront à nouveau moi-même, ma petite un jour deviendra.
Il ne faut pas oublier que l'histoire personnelle, elle a un impact très important, quoi. L'historique.
Oui, tout à fait.
D'un membre du couple, mais aussi de l'autre, quoi.
Oui, et du système. Et du système familial, de la systémie. Je trouve ça touchant ce que tu dis et ça me donne l'envie de saisir aussi cette occasion, même si je l'ai déjà fait, mais pour te remercier. Je pense que ça fait partie de la richesse de ce qui m'a apporté dans dans le fait de t'avoir comme papa, mais dans le fait de t'avoir aussi comme grand-père de ma fille et comme grand-parent qui nous a soutenus aussi quand nous, on est devenus parents et dans ce qu'on vit encore aujourd'hui dans notre parentalité, parce que je me suis sentie toujours accueillie dans ce que je vivais et même quand c'était différent, je percevais que tu te mettais à l'écoute. Et que du coup, tu faisais ce pas et puis à un moment donné, ok, on pense différemment, mais je me sentais reconnue dans mon droit de penser librement et de faire mes propres choix et notamment avec ma fille et puis pour ma vie, mais dans ma parentalité aussi. Et c'est ce qui a fait que, enfin, qui a participé en tout cas à ce que moi, je puisse être moi-même, que je me sente aussi en confiance et soutenue. Soutenue dans mes choix, qui fassent partie de notre dénominateur commun ou qui fassent partie de nos zones de différence. Et ça, pour moi, ça a joué sur ma force de femme, ma confiance en fait, tu vois, dans mon empowerment, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, et aussi dans ma posture parentale et dans la confiance que je donnais à ça, parce que je me sentais aussi accueillie, même si on pensait différemment sur certaines fois, mais que ce soit au niveau de la façon d'être avec elle, de la porter, de l'allaiter, de tout ça. Aussi parce qu'on a beaucoup de dénominateurs communs, hein, vous dans l'éducation que vous m'avez transmis et moi dans les choix que je fais, mais il y a des différences. Et même quand elles étaient là, il y a cette écoute et cet amour, même quand il y a une voilà, un écart en fait de pensée ou de comportement. Ouais. Et j'ai aussi beaucoup souvent apprécié, je te vois quand tu parlais tout à l'heure de quand je te demandais comment tu as pu trouver ta place aussi en tant que grand-père quand nous on est devenus parents et tu parlais de la notion d'observer sans s'immiscer et je te voyais souvent comme ça, alors je suis présent mais je viens pas trop près, mais je savais que si à la moindre demande t'étais prêt aussi à et à le faire de bon cœur en fait sans qu'il y ait bon bah voilà j'ai fait ça maintenant je veux je veux mon merci, ou sans que ça te coûte et ça c'était un vrai soutien, ça permettait de sentir que voilà on pouvait compter dessus et je souhaite à tous les grands-pères et à toutes les filles et à tous les couples à des grands-parents, des jeunes parents de pouvoir trouver cet espace où on se rencontre en fait, où on se rencontre et où on invente la relation, qu'est-ce qui est possible de faire ensemble, et identifier qu'est-ce qui est pas possible, sans que ça crée une souffrance, mais ok, bah là, je vais le chercher dans un autre espace, et du coup, on nourrit la relation avec tout ça. Ouais. Donc, merci beaucoup. Pour tous ces cadeaux, bah oui, moi aussi, on est tout émus. et puis, merci aussi pour ce partage très riche, et qui, voilà, j'espère que cheminer aussi chacun là où il en est.
Ouais, son expérience de vie. Bien sûr, bah ouais, c'est le défi d'instant.
Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Michael.
Avec plaisir, mais en même temps, tu me donnes l'opportunité d'exprimer plein de choses. C'est un grand cadeau pour moi.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté ce podcast à nos côtés. Je vous invite à retrouver bientôt le kit « Devenir grand-parent » qui a été créé pour vous, les futurs grands-parents et les jeunes parents, afin de co-construire ensemble le mois d'or et de partager cette expérience humaine extraordinaire. Tout est disponible sur notre site internet lemoisdor.fr.
Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or, ce sont des livres pour bien se préparer. Ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum.
Et si vous souhaitez soutenir le message du mois d'or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. À bientôt !